En visite en Belgique fin septembre, le pape François s'est recueilli sur la tombe du roi Baudouin. Il a même émis le souhait que ce souverain, fervent catholique, qui s'est opposé en 1990 à la loi belge dépénalisant l'avortement, soit béatifié. Bonjour, je suis Magali Rangin, chef du service Culture et People de BFMTV.com et vous écoutez le podcast royal, le podcast des têtes couronnées. Avec moi aujourd'hui pour évoquer le destin du roi Baudouin, je reçois le journaliste et historien Patrick Weber, auteur de La Grande Histoire de la Belgique. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Le pape François souhaite donc béatifier l'ancien souverain belge Baudouin pour s'être opposé passivement à une loi sur l'avortement. C'était en 1990. Pour ne pas avoir à signer une loi dépénalisant l'avortement en Belgique, le roi Baudouin s'était mis dans l'incapacité de régner, je cite, pendant quelques jours, le temps que cette loi soit votée par le Parlement. Le roi des Belges n'est-il pas censé rester neutre dans les débats politiques ?
Alors, ça a été vraiment, je dirais même quelques heures. Donc, ça a été vraiment très très court. On a trouvé ce qui s'appelle, c'est très belge, un compromis à la belge. C'est-à-dire que en Belgique, le roi signe et promulgue les lois. Alors, ce n'est pas le roi règne, mais il ne gouverne pas. On est dans une monarchie constitutionnelle, bien sûr. Mais par rapport à d'autres monarchies, le roi conserve quand même un rôle assez effectif, justement, dans cet acte hautement symbolique de la signature et de la promulgation. Donc, si une loi n'est pas contresignée par le roi, elle n'est pas effective, tout bêtement. Donc, le roi est obligé, entre guillemets, de signer les lois. Alors, ça n'a jamais posé énormément de problèmes. Alors, si on remonte dans l'histoire du pays, au 19e siècle, les premiers rois, je pense à Léopold Ier, Léopold II, forcément, ils bataillaient parfois avec leur gouvernement, puisque le pouvoir royal était peut-être plus affirmé à l'époque. Au 20e siècle, la plus forte raison aujourd'hui, d'ailleurs, c'est moins le cas. Mais là, c'est la première fois vraiment qu'on s'est trouvé face à cette impasse. C'était vraiment ça, c'était une impasse. C'est-à-dire que le roi, ayant des convictions religieuses catholiques très profondes, ne voulait pas signer cette loi. Alors, est-ce qu'il voulait empêcher la loi d'être promulguée et d'être effective ? Il n'avait pas le choix. Donc la question ne se posait même pas, puisque c'était une décision démocratique et que, voilà, ce pays est une démocratie. Mais donc, il fallait trouver en fait une façon de contourner les choses. Alors, il y avait aussi un danger qui était, et ça a été fait par ailleurs, hein, ça a été fait au Luxembourg par exemple, de retirer cette prérogative royale, le gouvernement ne voulait pas prendre ce risque, parce que c'est un pays qui est compliqué, c'est un pays où chaque équilibre doit être hautement respecté, donc il ne fallait pas retirer cette prérogative royale. Donc l'idée qui a été trouvée, c'est l'objection de conscience. C'est de dire, voilà, le roi a, comme n'importe quel citoyen, droit à une objection de conscience, et dans sa conscience, eh bien, sa conscience lui dicte de ne pas signer, et donc il n'a pas signé. Et donc, il y a aussi, dans la Constitution, il est prévu que le roi se trouve à un moment ou l'autre dans l'incapacité de régner. Ça pourrait être un roi retenu prisonnier, ou un roi atteint de démence, ou que sais-je. Il y a plusieurs cas de figure qui pourraient être évoqués. Eh bien là, l'incapacité de régner a été justifiée par son objection de conscience.
Et comment cette attitude a-t-elle été perçue à l'époque ?
Ça a fait un très grand débat. Ça a fait vraiment un très grand débat parce qu'en fait, pour que la fonction royale soit vraiment pertinente et efficace, elle doit se situer au-dessus des partis. Il y a quand même 10 monarchies constitutionnelles en Europe, et ces monarchies constitutionnelles, elles doivent respecter le rôle d'arbitre, et elles ne doivent pas, si vous me passez l'expression, mettre les mains dans le cambouis de la politique quotidienne. Donc, ce n'est pas au roi ou à la reine, par ailleurs, j'en sais, ça dépend des monarchies, de se mêler de ça. Donc là, il y a eu comme un coup d'arrêt. Alors, à l'époque, certains ont dit, oui, après tout, il a représenté une partie de l'opinion du peuple belge qui disait, on n'est pas pour, donc quelque part, leur conscience a été, entre guillemets, respectée. Mais une grande partie de l'opinion a estimé que le roi sortait de ses prérogatives et qu'il avait fallu trouver un compromis. À l'époque, on a parlé d'entourloupe, on a dit, voilà, c'est une entourloupe. Et alors, Baudouin est devenu, Peut-être même, d'ailleurs, peut-être un peu à son corps défendant, parce qu'il n'a jamais cherché à être une icône, et il a été, entre guillemets, récupéré par les adversaires de l'IVG, de l'avortement, et qui en ont fait un symbole. Maintenant, il est mort quelques années plus tard, et il n'a pas eu vraiment l'occasion. Il n'est pas revenu, il n'est jamais revenu. D'ailleurs, en Belgique, il n'est pas de tradition d'interviewer le souverain. Le souverain ne donne pas son avis et ne se confie pas, mais il n'est jamais revenu sur cet épisode par la suite.
Donc, vous le dites, cet épisode a créé une petite crise dans le pays. Quelle a été par ailleurs la teneur du règne de Baudouin? Il a quand même régné pendant 43 ans, de 1951 à 1993. Quel genre de règne a-t-il eu?
C'est un peu dommage d'ailleurs aujourd'hui de résumer tout le règne du roi Baudouin à cette histoire, même si elle a été vraiment, je dirais, la plus médiatisée. En fait, c'est un très long règne, et c'est un règne qui a eu une importance vraiment décisive dans ce pays, parce que d'abord, au lendemain de la guerre, son père, le roi Léopold III, avait été accusé d'être resté en Belgique. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris, comme par exemple la grande-duchesse de Luxembourg ou la reine des Pays-Bas, il n'a pas pris la route de l'exil pour aller à Londres. Il est resté au pays et il a dit qu'il voulait partager le sort des prisonniers belges. Donc il est resté au pays, il est resté au château de la Keun. Alors nous, on était occupés complètement par les Allemands. Donc il n'y a pas eu de collaboration. Ça n'a pas été le pétain des Belges, en ce sens qu'il n'a pas régné. Il était là, mais il n'a pas régné. Ce sont les Allemands qui gouvernaient le pays. Mais en même temps, il s'est marié pendant ce temps-là. Il avait été rencontré Hitler pour essayer de se faire libérer les prisonniers belges. Donc, il y a eu, au lendemain de la guerre, puisqu'il a été emmené prisonnier par les Allemands à la fin de la guerre, il y a eu une période pendant 5 ans où le roi était prisonnier des Allemands, et puis après ça, il est resté en exil pendant 5 ans, entre 45 et 50. Et c'est son frère, le prince Charles, qui est devenu régent du royaume pendant 5 ans. Et puis quand il est revenu en Belgique, il y a eu ce qu'on appelle la question royale, il y a eu un référendum. Alors, nous, en Belgique, on n'a pas du tout de pratique du référendum. C'était même pas d'ailleurs un référendum, c'était une consultation populaire. Et donc, qui a voté pour le retour du roi sur le trône. Néanmoins, le nord du pays était très royaliste, le sud était plutôt opposé au roi Léopold. Il y a eu des échauffourées, il y a eu même des grandes violences de rue, et donc le roi a été obligé d'abdiquer. Et c'est son fils, Baudouin, qui est devenu roi, mais très jeune. Il avait 19 ans et il est monté sur le trône. Il avait une vingtaine d'années. Et donc, il a vraiment eu un très long règne et il a vraiment, je dirais, accompagné l'évolution de la monarchie, parfois à son corps défendant, la décolonisation du Congo, par exemple, en 1960, je dirais l'évolution du rôle de la monarchie, la fédéralisation de l'État aussi, puisqu'on était un État unitaire, on est devenu un État fédéral, en Belgique on parle 3 langues, il y a des communautés, des régions, tout ça est assez compliqué à observer de l'extérieur. Et donc il a assisté, je dirais un peu comme la reine Élisabeth, à un détricotage à la fois de ses prérogatives et du pays unitaire tel qu'il en avait hérité en 1950. Donc ça a été un souverain, mais qui apparaissait aussi, alors certains diront très raide, mais en même temps il était très, je dirais, très respecté, parce qu'il était très digne, qu'il avait une stature qui en imposait, on peut dire les choses comme ça. Et donc c'est vrai que les Belges avaient toujours connu le roi Baudouin, donc il était assez intouchable. Je dirais que par la suite, on fait le bilan du règne, son implication en Afrique, l'histoire de l'avortement, mais 1000 autres choses qui ont fait qu'il a été, je dirais, le dernier à régner de cette manière. Son frère lui a succédé, son neveu est sur le trône aujourd'hui, et on peut dire que par la suite, les autres lois, parce qu'en Belgique, on est plutôt en pointe, hein, quand on compare à la France, nous, je veux dire, l'euthanasie, le mariage gay, la lutte contre l'acharnement thérapeutique et tout ça, chez nous, tout ça s'est passé, la procréation et tout ça, ce sont des choses qui sont passées chez nous assez facilement, sans provoquer la moindre manifestation dans les rues, tous nos souverains, enfin, que ce soit Albert II ou aujourd'hui Philippe, signe les lois sans contester quoi que ce soit. Baudouin a été le seul à le faire, et c'est probablement pour ça que le pape a mis le doigt là-dessus, en mettant probablement d'ailleurs la famille royale chez nous très mal à l'aise, parce que la famille royale n'était a priori pas informée.
Alors, je lisais en préparant ce podcast que le roi Baudouin était surnommé le roi triste. Ouais. Qu'est-ce qui justifie ce surnom? Est-ce que c'est cette raideur dont vous parliez?
Alors, il a une histoire familiale très compliquée. C'est-à-dire qu'il a perdu sa maman, il avait 5 ans. La mythique et légendaire Anastride, hein, qui était un peu une espèce de Diana des Belges à l'époque, qui était très, très, très populaire. Après ça, la guerre est arrivée, il avait 10 ans. Et là, tout d'un coup, il a une deuxième maman, la princesse Liliane, mais en fait, à la limite, il n'en savait rien parce que les enfants royaux n'avaient pas été du tout prévenus du remariage de leur père, donc ça a été quand même assez, assez surprenant. Pendant la guerre, il a été quand même relativement tenu à l'écart de son père et de sa belle-mère. Puis après ça, il a connu les 5 ans d'exil. Et alors, il y a eu un drame complètement shakespearien, on peut le dire, parce que quand son père a été contraint à l'abdication en 1950, lui, il a eu vraiment le sentiment d'usurper la place de son père. Et il l'a très très mal vécu, c'est-à-dire que d'un côté il allait travailler entre guillemets au bureau, c'est-à-dire au Palais Royal tous les jours, en travaillant avec des politiques qui s'étaient opposés à son père, et le soir il rentrait au château de la Queune chez son père, et là il entendait, il entendait les deux sons de cloche, les hommes politiques d'un côté, la classe politique qui était en grande majorité opposée à son père, et puis le roi Léopold III qu'il retrouvait le soir. Et donc ça a été un peu schizophrénique pour lui de vivre ça pendant une dizaine d'années, entre 1950 et 1960. Et en plus, il était célibataire. La monarchie s'accommode assez mal du célibat, parce que la monarchie, c'est une histoire de famille, ça fonctionne comme ça. À tel point qu'à l'époque, comme il était très pieux, tout le monde pensait qu'il allait abdiquer, qu'il allait rentrer dans les ordres. Et il y a eu cette période de 10 ans où on l'a appelé le roi triste, car il était très sérieux, il était un peu engoncé dans son costume de roi et dans son uniforme. Mais en même temps, on lui reconnaissait une grande conscience professionnelle, car Sacho était un très grand travailleur. Et puis est arrivée cette espèce de surprise assez, assez étonnante, c'est-à-dire que personne dans la famille royale n'était au courant. On a annoncé en 1960 le mariage de Baudouin avec une aristocrate espagnole, Fabiola, Dona Fabiola de la Mora y Aragon, si vous voulez le nom complet, et qui est arrivée chez nous au grand étonnement de tout le monde, au grand étonnement de la classe politique et au grand étonnement de la famille royale qui elle-même n'était pas au courant. Et à partir du moment où il a rencontré Fabiola, là, il a perdu sa tristesse, il a trouvé le sourire, et ils ont vécu vraiment une vie de couple très chrétienne. Ils partageaient tous les deux leurs convictions très, très catholiques, très profondément ancrées en eux. Mais aussi, je dirais, avec un grand désespoir qui était de ne pas avoir d'enfant. Fabiola a fait de nombreuses fausses couches, il n'y a jamais eu d'enfant. Et ça, ça a été vraiment pour eux un grave problème. Et probablement, l'histoire de l'avortement joue aussi dans ce drame personnel, parce que ça a été vraiment leur quête pendant une vingtaine d'années d'essayer justement d'avoir un héritier, d'avoir un enfant tout bêtement, enfin tout simplement, par-delà l'héritier d'ailleurs, je pense que c'était vraiment quelque chose de très important pour eux, et échec après échec, ils en ont terriblement souffert.
Alors ce roi Baudouin, quelle trace laisse-t-il finalement dans l'histoire de la Belgique ?
Moi, je me rappelle à l'époque, bon forcément j'étais plus jeune, mais quand le roi Baudouin est mort, vous savez, ça reste un moment assez unique dans l'histoire du pays. Quand le roi Baudouin est mort, moi personnellement, j'étais à l'autre bout du monde à ce moment-là, j'étais en Malaisie. Et un jour, j'ai pris mon petit déjeuner, j'étais au fin fond de la forêt, et dans un lodge, et le monsieur qui venait nous servir le petit déjeuner me dit « Your king is dead ». Et moi, j'étais loin, je me dis mais ça paraissait invraisemblable. Et je suis rentré, j'étais à la fin de mes vacances, je suis rentré à ce moment-là, et j'ai jamais vu ça en fait. Il y avait, les gens parlaient à voix basse dans la rue, il y avait une retenue, en fait, on avait tous l'impression d'avoir perdu. Alors, le temps a fait son œuvre, et aujourd'hui, probablement, peut-être, je sais pas, vous interviewez d'autres gens, ils diront autre chose, mais je vous avoue qu'à l'époque, même les médias, bon, moi je travaille pour la RTBF en Belgique, les médias officiels suivaient l'affaire, mais ils ne pensaient pas que l'adhésion populaire allait être tellement gigantesque. Des milliers et des milliers de personnes se sont rassemblées devant le palais, les gens dormaient devant le palais, ils apportaient des monceaux de fleurs devant le palais, parce qu'il est mort d'une minute à l'autre, il était encore présent, la fête nationale en Belgique, c'est le 21 juillet, et quelques jours plus tard, il meurt lors de ses vacances en Espagne. Et en fait, on pensait qu'il avait toujours été là. Et je crois que les Belges avaient quand même conscience qu'après Baudouin, ce ne serait plus pareil. Et que le pays allait changer, que le pays s'engageait dans la voie du fédéralisme, que le pays unitaire tel qu'on le connaissait depuis la création du pays, tout ça était sur le point de basculer. Et donc, Baudouin, il y a eu un tel attachement, vous savez, sur plein de voitures là. Il y avait Belges, nous resterons unis en mémoire du roi Baudouin. Il y a eu vraiment un mouvement d'émotion, mais je pense qu'on a rarement connu dans l'histoire du pays, qui peut paraître d'ailleurs parfois assez irrationnel. Mais vous savez, regardez ce qui s'est passé en Angleterre avec la mort de la reine Elisabeth, avec le jubilé de la reine Elisabeth. La monarchie, ça fonctionne comme ça. Je sais que quand on vit en République, c'est parfois plus compliqué à comprendre, mais on avait toujours connu cette personne. Moi personnellement, j'étais trop jeune en tant que journaliste, je l'avais jamais interviewé, mais je l'avais vu à plusieurs reprises. C'était une personnalité dont il émanait comme ça une espèce de respect comme ça. Et parfois, on avait même l'impression que c'était pas tout à fait un être humain, qu'il était un peu au-dessus comme ça de la mêlée. C'est assez étrange. Et alors, c'est vrai que quand il est mort, il y a eu un appel pour le béatifier. On a dit en italien, on dit deve essere santo subito. Il doit être tout de suite sanctifié, enfin béatifié dans un. Et puis les choses se sont un peu calmées. Son frère est monté sur le trône. Voilà, l'histoire avance. Et je dirais maintenant, on est dans une autre période. Je veux dire, Baudouin n'est plus considéré comme une espèce de figure intouchable. Aujourd'hui, c'est plus l'heure du bilan. Peut-être que dans 20 ans, on redécouvrira le roi différemment. Mais c'est vrai que passé ce grand moment d'émotion, il est rentré dans une espèce de pas de purgatoire, mais d'oubli, en fait, ou en tout cas de distance, parce qu'on se rendait bien compte qu'il incarnait une époque qui était révolue.
Alors, lors de sa visite, le pape François, en septembre dernier, on le disait, est venu se recueillir sur sa tombe. Le palais royal belge a tenu à préciser que Philippe, donc le roi actuel et le neveu de Baudouin, l'avait accompagné par courtoisie, je cite, hein, à la crypte royale. C'est une manière de prendre un peu les distances avec le geste de François. Pourquoi avoir précisé cela ?
Alors, vous avez tout à fait raison de préciser ça. Parce que le terme courtoisie, moi, personnellement, je commentais en direct la messe du pape et on découvrait tout ça minute après minute. Donc, ça a été un moment assez étonnant. Et, en fait, le programme du voyage du pape était fixé depuis longtemps. Et voilà, on connaissait les grandes étapes. La visite à la crypte, nous avons en Belgique, en fait, Notre-Dame de Laeken, qui est une église qui se trouve pas très, très loin du, en Belgique, il y a le palais royal où le roi travaille et le château royal où la famille royale habite. Et donc, en fait, cette église se trouve pas très très loin du château royal. Et la crypte de cette église, eh bien, abrite les dépouilles de tous les rois et toutes les reines des Belges et quelques princes aussi. Et donc, en fait, on ne s'attendait pas à cette visite. Et clairement, nous-mêmes, en tant que journalistes, on n'était pas du tout informés. Puis, quand est arrivé ce communiqué, on s'est dit, là, il y a un problème. Le problème, tout simplement, est dû au fait que le pape, donc apparemment, a demandé la permission, mais plutôt la possibilité d'aller se recueillir devant la tombe du roi. Forcément, on voit difficilement le roi et la reine refuser cette demande papale. Hein, voilà, on se dit que voilà, le pape est notre invité. Donc, on répond à ses demandes et à ses attentes. Donc, ils se sont trouvés là, dans la crypte, et d'après les échos que j'ai pu en avoir, moi, j'y étais pas, hein, mais d'après les échos que j'ai pu en avoir, l'idée c'était que ça reste complètement confidentiel et que c'était un acte totalement privé. Ce qui est très étonnant, c'est qu'après, les photos ont commencé à circuler. Et les photos n'ont pas commencé à circuler émanant chez nous du palais, de la communication du palais et encore moins du gouvernement d'ailleurs, elles émanaient du Vatican. Donc clairement, il y avait une volonté de mettre en lumière la présence du pape François devant la tombe du roi Baudouin, ce qui a vraiment importuné, gêné, vous choisirez le mot que vous préférez, la couronne chez nous, parce que c'était quelque part pas du tout ce qui avait été convenu. Donc le terme qui a été choisi, le terme de courtoisie, vous savez qu'en termes diplomatiques, et surtout dans une diplomatie de palais royal, chaque terme est sous-pesé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention avant d'être communiqué. Le terme de courtoisie veut tout dire. Ça veut dire que voilà, on a répondu à une attente et une demande du pape par courtoisie, et ce qui s'est passé par la suite est du ressort du Vatican, mais ne relève absolument pas de la volonté ni du roi, ni de la reine, ni du gouvernement.
Merci Patrick, et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Podcast Royal. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note. Vous pouvez nous retrouver sur le site de BFM TV, sur l'appli et sur toutes les plateformes. À la semaine prochaine.